7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
Anastasie Tudiech.
Bonjour les voisins, bonjour les voisines. Une révolution à petite foulée serait en train de prendre la France par les pieds, comme souvent 40 ans après les États-Unis. Les chiffres sont édifiants. En 2013, 6 millions de Français seraient des coureurs réguliers. Entre culte du corps et souci de préserver sa santé, les Français courent et ils aiment ça. D'où vient cet engouement pour le running, en français course à pied? Quel est le secret de ce succès aujourd'hui français mais international aussi? Car nous allons, en un peu moins d'une heure, découvrir un sport globalisé s'il en est. Né en Grèce, sa grand-messe non professionnelle est américaine. Ses champions sont est-africains, ses équipementiers vedettes peuvent être japonais comme français ou américains. Pour découvrir la planète running, trois intervenants, Patrick Mignon, sociologue du sport à l'INSEP, bonjour.
Bonjour.
Mathieu Lemot, journaliste et marathonien, auteur d'un formidable et tout nouveau, il a 8 jours dans les librairies d'Ico du Running chez Flammarion, bonjour.
Bonjour.
Et Camille Pictirion, blogueuse et blogueuse santé et coureuse convertie, vous nous raconterez tout ça tout à l'heure, bonjour.
Bonjour.
Et chez vous les voisins, qui court, où, comment et pourquoi, dites-nous tout au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Le monde est un village planétaire.
Ça m'a appris la fraternité, découvrir d'autres cultures.
Malgré toutes nos différences, il y a toujours quelque chose, quelque part, qui nous rapproche.
Eh ben tiens, il y a quand même une émission qui pense à tout le monde.
Il y a tellement de richesses ailleurs.
7 milliards de voisins. Et entre nous, là, entre les voisins.
7 milliards de voisins?
Oui.
C'est maintenant.
7 milliards.
Mathieu Lemot, le terme course à pied ou running est générique et recouvre différentes familles de courses. Vous nous les présentez?
C'est cela, c'est-à-dire que le mot running est le mot un petit peu moderne et récent pour décrire le fait de courir. Et c'est le terme générique qui recouvre voilà, plusieurs chapelles, des chapelles qu'on connaissait. Alors avant on disait jogging, c'était un peu les années 90.
Voire 80.
Maintenant on peut dire footing qui décrit une course plutôt lente. Après derrière il y a je cours. La course à pied c'est le côté très performance, voire l'athlétisme même. Et puis derrière, il y a le trail qui se développe, c'est la
Alors
course.
Qu'est-ce que c'est T-R-A-I-L?
T-R-A-I-L, c'est le... Ça, je crois pas me tromper en disant que ça veut dire chemin en anglais. C'est la course nature en montagne qui est une des tendances dans la tendance. Et d'ailleurs, les gens, quand on les interroge, je crois qu'il y a 20% de personnes qui disent « je suis trailer et pas coureur ».
Ouais. Ah oui, c'est plus chic, c'est plus.
Ouais, et ça donne un petit côté aventurier aussi.
Oui,
ouais.
Et en même temps un peu rare. Donc il y a les trails, il y a les ultra trails.
Il y a les ultra trails où là, c'est des courses, ça paraît dingue, mais il y a des mecs et des femmes capables de courir pendant 160, 200, 300 kilomètres dans la montagne. C'est des courses qui durent plusieurs jours. Là, je crois que c'est à La Réunion, oui, il y a la Diagonale des Fous qui va avoir lieu très prochainement. C'est des courses un peu dingue, mais voilà, il y a de plus en plus de gens qui s'y inscrivent et qui veulent s'y mettre.
Et le marathon?
Le marathon, alors souvent on m'a beaucoup posé la question, mais tu fais des marathons de combien de kilomètres?
Alors, ce qui agace toujours les marathoniens.
Oui, un peu, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait toujours, et depuis la nuit des temps, depuis que le marathon est le marathon, ça fait 42,195 kilomètres.
Qu'on se le dise.
Alors,
il y a le marathon, mais il y a aussi l'ultra-marathon et le semi-marathon.
Le semi-marathon, donc c'est la moitié d'un marathon. Comme son indique, la moitié des marathons, c'est une distance qui est assez en vogue parce que faire un marathon, 42,195 km, c'est très long, c'est un engagement physique, mental, social qui est hyper.
Mais ça demande une préparation.
Ouais, ça demande une préparation assez dingue et c'est un effort physique qui est assez rude pour l'avoir fait. Le 10 km, beaucoup de gens disent c'est trop court. C'est-à-dire que j'aurais eu.
Bah, on souffre pas assez.
Et puis on a envie de plus, quoi. C'est-à-dire que une fois qu'on est habitué, ça passe très vite, 10 kilomètres. Donc en fait, le semi, c'est en train de devenir la compétition médiane, si je puis dire, qui attire beaucoup de monde, sur laquelle on peut à la fois prendre du plaisir à courir longtemps et se mettre la guerre, comme on dit.
Qu'est-ce que mettre la guerre?
Se mettre la guerre, c'est se bouger de l'arrière pour faire un chrono. Ouais.
D'accord, alors ça c'est pour le semi-marathon et l'ultra-marathon.
L'ultra-marathon, c'est des courses qui dépassent les 50 km, voire les 100 km.
On est dans la performance absolue là.
Là, on est dans la performance absolue et là, il faut vraiment être très expérimenté et pas se lancer comme ça, évidemment, du jour au lendemain. Ce que certaines personnes ont tendance à faire, il y a une mode de tiens, je vais me faire un marathon. Ça prend un peu de temps quand même. Il y a des étapes à respecter au risque de se faire mal.
Patrick Mignon, cet ultra-marathon dont on est en train de qu'on vient d'évoquer n'est pas ce que les Français préfèrent. N'est pas la partie de la course à pied qui est préférée.
Oui, là, si je prends par exemple dans les statistiques qu'on avait pu faire, le marathon, ça représente 3% parmi les gens qui déclarent faire de la course à pied. Alors l'ultra-marathon, ça sera encore un petit peu moins.
Certainement.
Nécessairement. Oui. Non, la course à pied comme phénomène de masse, c'est quelque chose qui ferait du 10 km aujourd'hui la pointe la plus élevée de la pyramide. Et qui sont ceux qui sont rentrés. C'est le phénomène intéressant de la course à pied. C'est-à-dire depuis 2000, c'est la pratique sportive qui monte. Voilà, les autres restent à peu près à leur état. La course à pied a augmenté et elle augmente parce que justement on est passé du footing ou du jogging, on est passé à des formes un peu plus engagées dont le 10 km est la preuve, c'est la forme la plus démocratique de l'exigence de la course à pied aujourd'hui en France.
Vous parlez d'engagement, ce qui me donne envie de me tourner vers vous Camille Pictirion, et c'est un engagement par la vie, vous êtes la preuve par la vie de cet engouement pour le running général et français. Vous avez carrément vous mis fin à une carrière prometteuse dans le marketing digital pour une très grande marque de cosmétiques. Et avant cela, vous avez travaillé pour de grandes marques de luxe. Tout ça pour courir.
Exactement.
Qu'est-ce qui vous a pris ?
Disons que j'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai eu l'immense chance de participer à une opération qui s'appelle le Boost Battle Run. J'ai monté une team de running qui s'appelle la Boost Bastille et j'ai commencé à encadrer des coureurs. Très franchement, au départ, je pensais qu'on allait être 10, peut-être 15. Aujourd'hui, on est 120 à courir tous les mercredis soirs.
Mais au moment où vous avez commencé cela, vous étiez encore en train de travailler, vous aviez encore votre poste
Exactement.
En direction de marketing.
Exactement, et à ce moment-là, au bout de un mois et demi, je me suis dit, il y a quelque chose à faire là-dedans. Vraiment, aujourd'hui, tout le monde a envie de faire du sport, tout le monde a envie d'être bien. Je pense que le running, aujourd'hui, c'est la porte d'entrée la plus facile pour se mettre au sport. C'est accessible, on peut le pratiquer partout. Et il y a un engouement autour de ça que moi, je vis toutes les semaines. Et j'ai à la fois des gens qui n'ont jamais couru de leur vie et des gens qui font de l'ultra-trail. Et tout le monde court ensemble 10 km.
Et c'est ce qui vous a fait vous dire, vous disiez, il y a quelque chose à faire avec ça. Quoi ? Qu'est-ce que vous avez décidé d'en faire ?
Moi, j'ai décidé de changer complètement ce que je faisais. J'ai trouvé beaucoup plus de sens à travailler dans la santé. Je suis en train de passer des certifications pour devenir coach. Et surtout, je suis en train de passer un diplôme pour devenir naturopathe. Donc, apprendre aux gens à prendre soin d'eux, à s'alimenter correctement, à vraiment utiliser des techniques naturelles. Et le running en fait partie pour être en bonne santé.
Alors la course à pied passionne les voisins français, mais pas seulement. Sur Facebook, les voisins vous témoignez aussi, comme Alioun à Dakar qui dit « Je dirais que la course à pied est par essence et par excellence le sport individuel, ça va vous faire plaisir Camille Pictirion, qui met en exergue les qualités de vie d'une personne. Plus on assainit notre mode alimentaire et nos conditions d'existence, plus on est performant, Alioun ajoute entre parenthèses, un esprit sain dans un corps sain. C'est ce que dit l'adage. Mathieu Lemot, mens sana in corpore sano, ça peut être le discours non verbal d'un homme politique. On l'a vu aux États-Unis et puis en France avec Nicolas Sarkozy.
Oui, c'est-à-dire que avec Jimmy Carter dans les années 70.
Ça s'est pas très bien terminé.
Ça s'est pas très bien terminé pour lui. C'était un bon coureur et il en avait besoin. Il l'a expliqué dans de nombreuses interviews. Il avait besoin de. Mais comme beaucoup de courir, c'est-à-dire lâcher une tension, lâcher une pression, du stress. Et c'est né avec ça et avec lui cette tradition du président américain coureur qu'on a beaucoup vu avec Bill Clinton qui rameutait les caméras. Il aimait pas courir, il était pas bon coureur, mais il savait que ça faisait bien, sachant que les États-Unis sont la mère patrie entre guillemets du running. Enfin, il y a eu running boom là-bas au milieu des années 70 et c'est né comme ça. Ils ont eu des grands champions à l'époque, il y en a un peu moins maintenant, et on en était où? Il est président
et les présidents américains
et les présidents américains donc ont pris ce relais là parce qu'ils ont vu et senti que c'était un levier intéressant pour eux au niveau de leur communication politique, tout simplement. Esprit Saint dans un corps saint. Et Sarkozy l'Américain l'a repris avec pour lui cette évidence que montrer un président endurant, résistant à l'effort, voilà, toutes les valeurs qui peuvent être véhiculées par la course à pied étaient finalement transposables à la politique.
Et dans du running, vous l'expliquez très bien, vous le décrivez très bien, et vous décrivez aussi que, certes, il faut qu'on le voit courir, et on le voit courir avec ses collaborateurs, mais tous derrière et lui devant.
Tous derrière et lui devant, comme Louis XIV quand il marchait dans les jardins de Versailles.
Et toujours dans ce dico du running, vous racontez, Mathieu Lemot, qu'un esprit saint dans un corps saint, cette devise en latin, a été détournée et forme l'acronyme d'une marque de chaussures,
ouais, d'une marque de chaussures
japonaise.
Japonaise, voilà. Ils l'ont un tout petit peu.
Au lieu de Mansana, c'est Anima.
C'est ça. Ils ont pris ce et ils l'ont détourné et voilà. C'est le prolongement marketing technique d'un équipementier avec une philosophie de vie, si on peut dire.
7 milliards de voisins et la course et le running. Et vous, les voisins, dites-nous comment vous le vivez chez vous. 33 1 84 22 71 71. Tout de suite, c'est la musique de Kali Uchis. Ça s'appelle Know What I Want.
Turn the doorknob. It seems it's all locked up and the key decomposed. Remind me this the life that I chose. Go full speed, I can't read the signs that say stop. I brush it off and try to act on it too long. Yeah, I notice everything, I just act like I don't. Boy, I know what I want. Remind me this the life that I chose. Go full speed, I can't read the signs that say stop. I brush it off and try to act on it so long. Yeah, I notice everything, I just act like I don't. Boy, I know what I want.
Know What I Want, c'est Kali Uchis dans 7 milliards de voisins, la course à pied en question aujourd'hui, avec vous les voisins, avec nos trois intervenants, et un voisin quinois, Eddy. Mbote Eddy.
Mbote maman.
Comment allez-vous à Kinshasa?
Oui, je vais bien.
Alors nous avons vu, et vous l'avez entendu certainement comme moi, Eddy, que le sport, la course à pied notamment, peuvent être des moyens de se libérer de pression, de tension, de maintenir sa santé au mieux. Eh bien, selon les lieux, ça n'est pas toujours vécu de cette manière-là. Et votre expérience de Congolais est un peu différente.
Oui, c'est vrai ce que vous venez de dire, vraiment. Ça fait quelque chose de 6 ans que je fais cette course à pied.
Oui.
Mais il y a quelques mois, quelques semaines que la police est en train de nous interdire. Donc quand
elle vous interdit de courir.
Oui. Quand je me réveille à 4h du matin pour aller courir, je croise le véhicule de la police qui me demande de retourner à la maison violemment là. Ça fait vraiment peur. On risque même de perdre la vie avec notre police.
Oui, et qu'est-ce qu'on vous explique? Comment on justifie le fait qu'on vous stoppe comme ça dans votre course, Eddy?
Bon, ils disent que ce sont des sportifs qui agressent des monsieur. Hein, ce sont des sportifs qui sont auteurs des crimes qui fait rage sur la ville de Kinshasa.
Mais ils vous voient bien courir. J'imagine que vous ne sortez pas courir avec des couteaux cachés dans la ceinture ou des armes. Ils peuvent vous fouiller. J'imagine que vous leur expliquez cela aux policiers.
On n'a vraiment rien sur nous, juste un cinglet, des pantoufles.
Un cinglet, c'est un Marcel.
Mais, oui, seul aussi, mais on demande de rentrer à la maison. Et puis la police est trop violente, ça. C'est pas bien.
Et alors, qu'est-ce que vous comptez faire, vous qui courez depuis 6 ans? J'imagine que c'est très compliqué pour vous d'avoir à renoncer comme ça, d'arrêter.
Bon, on fait un peu la tétutesse. Des fois,
vous faites la tétutesse?
Oui, ça arrive des fois parce que sinon les muscles dérangent. Hein. Les muscles sont habitués à ces mouvements-là. Si on reste à la maison, c'est pas bien. On peut se réveiller un matin. On fait même la corde ou bien on circule un peu dans le quartier. Si on ne le croise pas, on est content, on est un peu soulagé. Si on le croise vraiment, carrément, on rentre à la maison.
Très bien. Merci pour ce témoignage édifiant, Eddy. Et puis, je vous souhaite de pouvoir quand même continuer de courir d'une manière ou d'une autre.
Ok, merci beaucoup.
Otika Malamu.
Malamu, maman.
Bonne journée. Bonne journée aux voisins quinois et à tous ceux qui nous écoutent et qui auraient envie, comme Eddy, de partager avec nous leur expérience running. Un numéro de téléphone, 331 84 22 71 71. Rapide tour de table, que vous inspire le témoignage d'Eddy, Patrick Mignon?
Ça me fait penser à une chose un peu inverse, au Venezuela, où la course à pied a été une réappropriation de l'espace public par rapport aux agressions des victimes des coureurs. Et c'est ce qui est intéressant, la course à pied comme thématique, comme ça, grande thématique sociale, c'est la question de la réappropriation de l'espace urbain. Voilà, ça fait partie, on pourrait dire que c'est un sport urbain, la grande famille des sports urbains. Et le sport urbain, qu'est-ce que c'est? C'est justement le fait que la population majoritaire vit dans les villes et qu'elle adapte finalement sa pratique physique sportive à cet espace et occupe d'abord les bois, parce que ça c'est facile, les jardins, mais aussi les rues, les boulevards. Et que du coup, ça pose en certaines conditions des problèmes de coexistence avec une certaine conception de l'ordre ou du désordre. Dans le cas du Congo, c'est une conception, enfin une espèce de conception de l'ordre. Dans le cas du Venezuela, c'est une exacerbation des conflits sociaux dans des villes comme Caracas. Et donc à ce titre-là, on se retrouve avec une activité tout à fait banale, innocente, etc., qui va se trouver chargée de significations politiques fortes. Bon, c'est toujours intéressant de voir comment une activité
la même activité
banale,
peut être vue et vécue différemment selon les latitudes. Mathieu Lemot,
je suis étonné et troublé parce que je savais pas que on pouvait s'en prendre à des coureurs qui...
Et à criminaliser la course, et partir du principe qu'un coureur est un criminel potentiel.
Alors je connais mal la situation sur place, mais c'est peut-être dévier le problème en essayant de se trouver des coupables et pas chercher les bons au bon endroit. J'en sais rien, mais...
Camille Pithirion, ouais. La même chose, si la même chose était arrivée en France, vous n'auriez jamais changé de vocation?
Clairement pas, et je trouve ça très touchant parce qu'on sent en plus que c'est un besoin viscéral pour ce monsieur de courir. Et de ne pas pouvoir le faire, de se retrouver un criminel pour vouloir simplement faire du sport, je trouve la situation assez ubuesque. Ouais.
Revenons et restons en France quelques minutes. 70 marathons organisés en France, c'est un succès complètement fou.
Oui, il y en a tous les ans un ou deux qui se créent de nouveau. Alors c'est compliqué d'organiser un marathon, faut le savoir, parce qu'il faut des bénévoles, il faut l'appui de sponsors évidemment, mais de des politiques locaux. Voilà, c'est très compliqué et c'est très courageux de la part des organisateurs de se lancer dans accueillir 6000, 7000 personnes sur un parcours qui fait 42 km quand même. Voilà, c'est pas évident.
Patrick Mignon. Sur cette question du marathon en France.
Alors, là aussi, ce qui peut être intéressant à observer, c'est dans ce développement de voir comment du coup il est sorti de son périmètre parisien. Donc Paris était un peu l'avant-garde de l'entrée du running en France. Là, avec la multiplication des marathons, c'est donc son l'élargissement du territoire des courses. Et du coup, comme le disait tout à l'heure,
Mathieu.
Ça suppose effectivement aussi une mobilisation des forces locales. Et ça apparaît comme quelque chose. On en parlait tout à l'heure. La presse régionale commence à publier des petits livrets sur la course à pied, avec les courses locales, les conseils et les clubs.
Vous l'aurez compris, c'est la course à pied qui est au cœur de nos discussions, les voisins. À tout à l'heure.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Retour à la course à pied, les voisins, notre sujet de discussion, d'échange aujourd'hui, plaisir, santé, politique, on le verra peut-être tout à l'heure, combat féministe parfois. Ce sport a pu servir de vitrine et continue d'ailleurs de le faire à différents combats. Trois intervenants pour en parler avec nous, Patrick Mignon, sociologue du sport, Mathieu Lemot, journaliste, auteur d'une somme sur le sujet, le dico du running, et Camille Pictirion, qui est blogueuse santé, et ils sont là pour en parler avec nous, et puis aussi au standard de 7 milliards, au 33 1 84 22 71 71, un voisin marocain, El Habib, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, soyez le bienvenu, El Habib, pardonnez-moi.
Oui.
Alors dites-nous comment vous pratiquez le running, El Habib.
Je le pratique chaque matin avec ma petite amie.
Oui. Où
Vous savez, à Casablanca.
Et où est-ce que vous courez?
À la plage, précisément. Vous savez, le sport, c'est la vie, c'est la santé. À un moment, j'étais vraiment négligent et tout. Je le fais pas souvent. Mais quand ma petite amie avait compris cela, elle a dit, du coup, on court ensemble. Donc, ça m'a beaucoup plus motivé. Vous imaginez, en tout cas, si vous courez et qu'une femme est à côté de vous, ça vous donne vraiment l'envie de courir, en tout cas, davantage.
J'imagine, surtout si c'est votre petite amie. On dit même, El Habib, que les gens qui font du sport ensemble restent ensemble, que les couples qui font du sport ensemble restent ensemble. Vous confirmez?
Oui. Oui, je confirme. Franchement, je confirme cela. C'est pas seulement les couples, mais ici à Casablanca, en tout cas, c'est presque toute la population. En tout cas, vous verrez si vous sortez en ville, vous aurez un moutonnement de vieilles dames, de vieux hommes, en tout cas, qui pratiquent aussi les sports, en tout cas, la plage.
Tout le monde court. Il faut dire que le Maroc a une longue tradition, une belle et longue tradition de marathon en Afrique, puisque le marathon de Marrakech existe depuis 25 ans déjà, et puis que c'est aussi ce pays une destination des coureurs de l'extrême. Il y a de nombreux trails et ultra trails qui se déroulent, qui se passent au Maroc.
Pardon ?
Il y a beaucoup de coureurs et différents types de courses qui se déroulent au Maroc.
Oui, je fais un bon nombre de pays en Afrique, mais j'ai jamais vu les sports qui est pratiqué ici au Maroc, nulle part dans le monde. Hein.
Donc vous êtes en train de nous dire, El Habib, que vous avez bien l'intention de continuer à courir avec votre petite amie.
Justement, oui. Je vais le faire, quelles que soient les circonstances de la vie. En tout cas, je le ferai chaque matin avec ma petite amie.
Et vous courez, donc vous courez chaque matin pendant...
Le sport est devenu une drogue pour moi. Si je ne la pratique pas, c'est-à-dire que je passe une mauvaise journée. Voilà. Et si je pratique le sport, je suis bien en forme le matin, et je fais mes études et j'arrive à me relever comme un militaire et voilà.
On a bien entendu que vous courez tous les matins. Pendant combien de temps?
Pendant 45 minutes chaque matin, je le fais sans faute.
Bon, merci pour votre beau témoignage, El Habib, et puis bonne continuation.
Merci également à vous. Bonne journée.
Belle journée à vous à Casablanca. Mathieu Lemot, je me tourne vers vous parce que El Habib a utilisé un mot, c'est comme une drogue. Et il y aurait, quand on court, une espèce de drogue qui se libère, qu'on trouve à eux comme endorphine dans votre
dictionnaire. Voilà, qu'on trouve à eux comme endorphine. C'est une drogue, tout ce qu'il y a de plus légal, puisque c'est nous qui la produisons dans notre propre corps. Et voilà, on libère.
Aucun risque d'overdose.
Par contre, il y a quand même une forme d'addiction qui existe dans la course à pied. Enfin, ça réexiste avec beaucoup d'autres sports, mais puisqu'on parle de course à pied, c'est que ça devient une addiction sociale. Et il y a quelques cas comme ça de c'est pas C'est pas répandu, mais ça peut arriver que toute la cellule familiale, toute la cellule sociale est exclusivement tournée vers sa passion, la pratique du sport, et ça peut causer des divorces, des séparations. Donc c'est le
d'accord. Donc le un couple qui s'entraîne ensemble reste ensemble dans
alors
quand
si,
on reste
si
mesuré.
La passion devient trop envahissante, ça peut être compliqué. Ouais.
Alors là, nous avons eu des témoignages jusqu'ici, les voisins de voisins qui étaient complètement pour, qui étaient vraiment acquis à la cause de la course à pied. Sur Facebook, tout le monde n'aime pas, comme Yasmine à Cotonou qui dit « Le jogging n'est pas trop mon truc, par contre, la marche, oui. La plupart de mes courses, je les fais à pied et c'est ma thérapie efficace pour déstresser. 5 à 10 kilomètres et j'oublie tout ce qui me tracasse. » Evelyne, elle, à Ngaoundéré, c'est au Cameroun, dit « Non, j'aime pas courir. Marcher, ça passe. Et là encore, ça dépend de la distance à parcourir. C'est parce que je suis pas très résistante pour la course. Je suis sûre que ça va choquer plus d'un, mais j'en vois pas trop la nécessité. » Camille Pictirion, ça va jusque-là?
Je suis un peu choquée.
Et puis, il y a tellement de sports qui permettent tout aussi bien de perdre les calories et travailler le muscle. Et enfin, Binti à Dakar nous dit « J'aurais aimé courir très souvent, mais les rares fois que je le fais, ça me coupe le souffle, j'ai du mal à respirer, bref, ça m'étouffe. » Ce sont des clientes idéales pour vous, Camille Pictirion, qui vous nous disiez tout à l'heure que dans les running que vous organisez, il y a des gens qui n'ont jamais couru et puis d'autres plus confirmés.
Je pense que la course est en train de devenir plus qu'un sport individuel, c'est en train de devenir pour plein de gens un sport collectif. Je pense que l'effet d'être en groupe, ça aide énormément à motiver les gens à courir. On peut très bien alterner au départ course et marche sur plusieurs kilomètres, puis se mettre vraiment à courir. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est beaucoup plus simple que de développer, par exemple, des gros muscles. Après, l'important, de toute façon, qu'on marche ou qu'on court, je pense que c'est de rester en action au moins une heure par jour. Ça me semble être un minimum pour
c'est
tout le monde.
C'est un minimum pour un individu qui vit dans une ville.
Pour n'importe quel individu.
Parce que j'imagine que la vie à la campagne fait, par définition, fait qu'on est plus, on est plus mobile.
C'est plus compliqué aujourd'hui. Et là, en tout cas, je parle vraiment pour la France, mais on se déplace beaucoup en voiture quand on est à la campagne et on ne fait pas forcément plus d'activités à Paris. Le Parisien marche beaucoup plus aujourd'hui que le provincial. Donc maintenant, je pense que vraiment, il y a un
enjeu
pour
chacun. Et chacun autour de la table acquiesce aussi bien Patrick Mignon que Mathieu Lemot.
Ouais, ouais.
D'accord. Donc le sport, c'est la ville.
Oui,
c'est la vie.
Oui. Le rural, à une époque, le rural ne faisait pas de sport parce qu'en fait, il faisait l'activité physique permanente. Il allait au marché en marchant, il labourait, etc. Aujourd'hui, le rural, il n'existe plus en tant que travailleur de la terre, quasiment plus. Il est sur un tracteur quand il travaille la terre. Et il se déplace en voiture, ce que vous disiez, c'est exactement ça. Alors que l'urbain, l'urbain, lui, a fait l'activité physique pour justement compenser l'absence de métiers de nature physique, et il a développé effectivement, c'est lui qui développe les pratiques physiques et sportives. C'est lui qui va à la montagne, c'est lui qui va au bord de la mer. Enfin, sauf pour les Bretons qui font du bateau, mais.
Alors, ce qui tout naturellement nous mène au cas kényan. Les Kenyans qui trustent toutes les compétitions de course à pied mondiales depuis, les 10 dernières années. Et on a essayé de percer ce mystère, on a analysé. Alors d'aucuns ont avancé des causes biologiques qui ont été très vite écartées, parce qu'en plus c'est assez dangereux de partir du principe qu'un type d'individu peut être meilleur que les autres dans telle ou telle activité. Donc on a écarté la piste biologique, mais justement la ruralité, le fait que les Kenyans et notamment ces champions-là ont dû aller à l'école à pied, en courant, dans des paysages peu urbanisés, a pu jouer, a pu l'expliquer.
Je pense que la piste effectivement biologique est une mauvaise piste parce qu'elle pousse à une généralisation abusive. Par contre, les spécialisations sociales, elles, ont un sens et peuvent effectivement, dans certains groupes, développer des qualités parce que justement le mode de vie qui lui est défini par ce qu'on fait comme activité, va permettre de développer des capacités physiques que d'autres ne développeront pas.
Alors les Kenyans, eux, disent en boutade que leur secret, c'est l'ougali, le plat national, une espèce de bouillie de maïs ou de mil.
Oui.
Certains ont essayé de suivre ce régime-là. Oui. Mais ça ne suffit pas.
Oui, c'est ça. Non. Et puis alors, ce qu'il faut voir, parce que tout à l'heure, quand on parlait des faits d'entraînement, je pense aussi ce qui se passe au Kenya, c'est que comme c'est un pays qui effectivement a produit des champions, Il a essayé. D'autres Kenyans ont voulu aussi être champions. Et puis on a créé des écoles pour qu'il y ait encore plus de Kenyans qui soient champions d'athlétisme. Et ce qui fait qu'en fait, des spécialisations sociales sont devenues des spécialités nationales. Avec d'ailleurs pas seulement les Kenyans, mais aussi des écoles anglaises, irlandaises, enfin, etc., catholiques, protestantes, qui ont formé des coureurs Kenyans. Plus le fait que c'est des coureurs qui peuvent s'exporter et que dans les pays où ils vont aller, par exemple aux États-Unis à l'université, ils vont aussi apprendre des techniques d'entraînement différentes. Donc il y a comme ça un cercle qui se constitue à une époque où c'est vrai que quand on découvre les Kenyans, l'entraînement scientifique, c'est pas un truc qui existe. Donc vraiment les qualités, en gros, entre guillemets, naturelles, c'est-à-dire qui sont liées au fait que certains modes de vie vont dominer. Mais après, c'est aujourd'hui, je pense qu'il faut prendre d'autres pistes de compréhension.
Nous avons au standard, madame, messieurs, une jeune femme qui s'appelle Mounia et que vous connaissez vraisemblablement, Camille Pitirion. Bonjour, Mounia.
Bonjour.
Vous êtes la bienvenue.
Merci.
Et vous nous appelez depuis Paris.
Oui, depuis Paris, ouais.
Alors, dites-nous tout. Ah, vous êtes au bureau. Bon.
Oui. Alors, en fait, j'ai appelé parce que je suis en direct, là.
Oui, absolument.
Ah, d'accord.
Et tout le monde vous écoute. Le monde entier vous écoute.
Oh, écoute, Camille, en fait, j'ai appelé juste pour dire que j'ai commencé le run, en fait. J'ai commencé à courir au mois d'avril.
Oui.
Et j'ai eu une baisse de motivation parce que j'ai commencé à courir seule. Après ma baisse de motivation, j'ai intégré donc la team de Camille.
L'équipe Boost Bastille.
Exactement, l'équipe Boost Bastille qui a été mise en place par Adidas. Et depuis, je suis devenue une vraie addict et une vraie droguée de la course à pied. Et je voulais vraiment remercier en live, en direct, Camille pour tout ce qu'elle fait pour nous.
Alors qu'est-ce qu'elle fait justement? Parce que vous semblez identifier votre retour au sport et votre addiction à sa personnalité.
Oui, parce qu'elle est, parce que c'est une femme hyper généreuse, c'est une femme hyper passionnée et elle aime ce qu'elle fait et elle partage son savoir-faire. Et elle nous soutient et elle nous amène à nous dépasser toutes les semaines.
Merci beaucoup, Mounia, pour ce beau témoignage.
Merci, Mounia. Hyper émue.
Et surtout, continuez. Alors, je pense que c'est acquis, hein, c'est prévu, mais bon, continuez.
Oui, merci beaucoup.
Bonne
merci
journée.
À vous et merci pour elle. Au revoir.
Bonne journée. Faites comme Mounia, appelez-nous 33 84 22 71 71 que vous connaissiez Camille Pictirion ou pas, dites-nous quel est votre rapport avec le sport. Ce que souligne Mounia, Patrick Mignon, paraît très intéressant et pourrait expliquer cet engouement aussi français. C'est qu'au fond, nous vivons en France, en Europe, en Occident, dans des sociétés individualisées. Et ce qui se passe, et c'est ce que Mounia racontait, c'est qu'en courant seul, elle a été démotivée et qu'au fond, c'est en rejoignant un groupe où elle l'a été finalement pas seulement pour courir, mais aussi pour faire du lien. Le sport et notamment la course est aussi un autre moyen de faire du lien.
Oui, je crois que c'est ça qui est intéressant dans la course à pied, c'est que c'est une assez bonne articulation entre les valeurs individualistes, c'est-à-dire qu'on rentre dans la course à pied pour des raisons individuelles,
oui,
se sentir mieux, être performant,
mieux,
enfin tout ce qu'on voudra. Et en fait, une des conditions pour que ça marche, il faut le faire avec d'autres. C'est ça qui va faire, c'est ça qui va entraîner, viens courir avec nous. Bon, ou c'est ça qui consiste à dire, oui, ça serait bien, je vais me mettre là-dedans, ça va un petit peu me tirer. Et donc, ça permet de faire à la fois de l'individuel et du collectif. Ce qui est un petit peu ce qu'on essaie de faire à peu près tous. C'est-à-dire à la fois de vouloir être nous-mêmes et puis en même temps de penser qu'on peut pas
être
que
soi avec les autres.
Seul. Voilà.
Alors, deux choses intéressantes avec le témoignage de Mounia, c'est que voilà, elle nous a permis de comprendre le passage de l'individualité au groupe, et aussi c'est une femme. Et vous parliez d'entraînement, la course à pied a pu être aussi une vitrine de combat féministe, Mathieu Lemot.
Et puis là, le lien est tout trouvé puisque, je pense que vous pensez à l'histoire de Catherine Switzer,
voilà,
qui pour l'histoire,
marathon de Boston.
Voilà, à la fin des années 60, s'est inscrite au marathon de Boston sous un pseudonyme qui ne laissait pas deviner son genre.
Elle a mis son initial, elle a mis son nom de famille et son initial.
Voilà, c'est ça. Et pour contextualiser, à l'époque, on pensait que les femmes ne pouvaient pas courir plus d'1 km Sans quoi, alors ça va pas être très dingue ce que je vais vous dire, mais j'ai trouvé ça dans des revues médicales très sérieuses de l'époque. Sans quoi, du poil allait leur pousser sur la poitrine. Et je cite.
Ça fait beaucoup rire qu'elles
allaient perdre leur utérus. Mais c'était des...
En courant.
En courant, plus d'un kilomètre. Voilà. Donc on sait depuis évidemment que c'était pas possible. Et donc il y avait tacitement ce truc de voilà, les femmes peuvent pas courir un marathon.
On a même dit que ça pouvait les faire vieillir prématurément. Enfin,
on a tout entendu que c'était déféminisant au possible. Et elle était étudiante en journalisme à l'université de Syracuse dans l'État de New York. Et elle a demandé à son coach, mais pourquoi moi je le ferais pas ? Donc il a dit vas-y lance-toi.
Il n'y croyait pas lui-même. Hein. Pas tellement.
Pas trop, mais
Il
a fallu qu'elle lui prouve. Mais il s'est dit allez pourquoi pas. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'au bout de sur la ligne de départ personne ne la remarque vraiment parce qu'en fait au départ d'un marathon on est vraiment très concentré sur soi pour le coup, ce qui est normal. Et elle se lance et au bout de 3 km il y a un des co-organisateurs de la course qui la repère au premier pointage kilométrique, là où les photographes et les journalistes sont également postés, ce qui a donné lieu à cette scène hallucinante de cet organisateur qui court après elle en lui disant « dégage de ma course ». Très clairement, qu'est-ce que tu fais là? Et Catherine Zitzer qui courait avec son petit ami qui était par ailleurs footballeur dans l'équipe universitaire.
Donc il était costaud.
Très costaud, 105 kilos, qui envoie valdinguer l'organisateur en question. Et là, donc on en revient à ce qu'on disait à l'instant, se crée une sorte de solidarité autour de Catherine Zitzer et il y a une sorte de cordon humain qui se crée autour d'elle et elle continue sa course. L'organisateur, lui, monte dans un véhicule, lui court après, continue à l'insulter, sauf que lui, cette fois, c'est lui qui se prend
la vindicte de la foule
et des participants. Et elle va aller au bout de son marathon. Elle le dit dans toutes ses interviews. Elle le dit au début de la course, j'étais une jeune fille, une fin d'ado entre guillemets, et à la fin, j'étais devenue une femme. Et en fait, quand elle a terminé son marathon, elle s'est pas dit waouh, je l'ai fait. Elle a dit waouh, j'ai un défi pour la vie. Et ce défi pour la vie, ça a été de faire courir des millions de femmes à travers des courses qu'elle a organisées grâce à un grand industriel de la cosmétique, pour le coup. Donc je me tourne vers Camille parce qu'on en parlait tout à l'heure.
Bien.
Et la finalité de tout ça, c'est qu'elle a amené elle a fait du lobbying pendant des années et elle a amené le marathon aux Jeux Olympiques de 1984. C'est très tard dans l'histoire des Jeux Olympiques, 84, premier marathon féminin à Los Angeles. Et donc on lui doit beaucoup, et les femmes lui doivent beaucoup. C'est un personnage qui est assez peu connu en France et c'est pour ça que j'ai voulu lui consacrer plusieurs pages parce que c'était... Pardon, excusez-moi, une très belle histoire. Voilà, j'ai terminé.
Et oui, et le monde était suspendu à vos lèvres, Mathieu Lemot, tout comme Aquanao tout de suite. C'est The World is Listening.
Flash, flash, flashback, 88, caught my first tape, third grade, young girl banging, Roxy and Shantae, around my way, Claude McKay, disarray, Langston's the dark cues, get bruised, stored away, hey, caught in cage, fought in the maze, gave up, and now I got dreams of being live on stage, what, turn the volume up, me and my cousin doing the WAP, dreaming about the salt and pepper haircut, speakers bump, light as a rock, pumps the rhythm of my next double dutch jump, what you want at once, Pacola Breed loves. We dreamed of ourselves new when Latifa showed us what a queen was. Went from invisible to seen on the smooth tip, sweet tea to follow Moni in the middle on the scene. Saw them, saw myself out to rock mics when I'm older. Picked up the pen and like internet. This is for Latifa, for Light, for Shantae, Bahamadia, Laura Hill, Heather B, for Jean Grey, Evie, Nikki D, Salt and Pepper, even me, a Pony B for Missy, for Kim and Foxy. This is for Rod Digger Rage, Left Eye for Yo Yo, Paula Perry, Nonchalant, the Brat. For Jane Doe, Rage, Mystic Force, Rocky D, for those never seen, or the search for female MCs, the microphone fiends. Stomped in the 90s after school, you could find me in the backyard begging for a beatbox rhyme. You and I, T.Y. and Heather B. Blues, frame the news of the death of Phyllis Hyman. I rap to keep from crying, taking mine, now I'm the boss, recipe boss show. They say no girls in the cypher, so I rock solo, live on the black street, ill nana get me home though. I rap along to every song, it ain't no playing with my yo-yo check, how I hit every note though. Even sung along the patois, like in the joint she did with Patra. I'm on a romantic call, blank page calling, I fantasize the crowd. Yes, you're nonchalantly in the trance at 5 o'clock in the morning. Sported the Kim hardcore wig, then came Lauren. She showed me the beauty in the natural cut. Amplify my rage, growing out my ass.
The world is listening. listening, c'était Akua Naru dans 7 milliards de voisins. Nous sommes toujours avec nos trois intervenants, Camille Pictirion, Patrick Mignon et Mathieu Lemot, pour parler de ce sport qui prend le monde par les pieds et la France aussi, la course à pied alias running. Justement, running, je me replonge dans votre dictionnaire, Mathieu Lemot, et à la lettre L, il y a lièvre. Vous pouvez nous dire ce qu'est un lièvre? Il y a vraiment de tout dans ce dictionnaire. Des animaux, des présidents, des femmes battantes, tout.
C'est un terme très technique qu'on utilise. Grosso modo, un lièvre, c'est quelqu'un qui va courir très vite pendant une période plus courte pour lancer le champion qui est juste derrière lui. Donc voilà, il y a l'expression courir le lièvre, c'est-à-dire courir très très vite derrière cet animal. Bon bah là on a imagé, et donc c'est un coureur qui est chargé de lancer le peloton et lancer le champion, courir très vite pendant une période, et puis au bout d'un moment il s'arrête et le champion peut finir tout seul,
entraîné qu'il est dans sa lancée.
Voilà,
et ce qui est incroyable, c'est que c'est un métier, enfin c'est payé, c'est rémunéré.
C'est rémunéré, c'est-à-dire que pour battre un record du monde, donc ça se prévoit, les champions arrivent à le prévoir un petit peu à l'avance, dire tel jour, telle heure, je serai en forme, en pic de forme, mais j'ai besoin d'aide. Et donc ils font appel à un lièvre, et ça fait partie du package quand un grand champion arrive sur un meeting, il prévient l'organisateur qui sait qu'il va se passer un truc.
Patrick Mignon, c'est quand même assez incroyable. Alors, à la fois cette professionnalisation du sacrifice dans le sport, et puis j'aimerais aussi qu'on aborde l'argent dans la course à pied.
Ouais. Ah, oui, le sacrifice dans le sport, ça c'est la différence qu'il y a dans le sport entre le champion et l'équipier. Voilà, donc le sport est fait à peu près depuis les origines entre celui qui va gagner tout le temps, et celui qui va être à son service. Et sauf qu'être au service d'un champion, c'est quelque chose aussi qui est rémunérateur, qui permet de gagner sa vie en tant que professionnel. On est professionnel, professionnel avec une valeur bien particulière. Et ça, dans la course à pied, c'est le lièvre. Dans d'autres sports, ça serait le partenaire d'entraînement en judo, pour dire les choses comme ça. C'est celui qui ira jamais aux Jeux Olympiques, mais c'est celui qui va aller contre Teddy Riner à chaque entraînement.
Ou en vélo, on appelle ça le lieutenant.
Voilà. Donc le porteur de bidon.
Voilà.
Qui sont des gens absolument fondamentaux. Ils protègent le leader quand il fait du vent. Quand il y a du vent, ils se mettent derrière lui. Puis voilà. Et puis ils roulent. Voilà. Ça c'est le lièvre en montagne. C'est celui qui attaque les cols à toute vitesse pour dégager le monde derrière et pour qu'à la fin il n'y ait plus que son champion ou au moins que l'autre.
Soit dans le peloton de tête.
Soit dans le peloton. Voilà. Donc ça c'est vraiment c'est la rationalisation du sport, sa professionnalisation et les manières d'obtenir des résultats et de rémunérer différents types de qualités.
Professionnalisation et l'argent, rémunération. Camille Pictirion, la team, l'équipe que vous entraînez est fournie en équipement par un équipementier international.
Oui, en tout cas, les personnes qui m'aident à encadrer les runs, les gens qui sont vraiment très impliqués, sont eux équipés ainsi que moi-même. Et il y a vraiment maintenant un enjeu autour du running pour les marques.
C'est-à-dire
qui est
que
énorme.
Les grandes marques ont pris conscience de cet engouement et se sont engouffrées dedans. Ce ne sont pas elles qui ont donné le mouvement, mais elles ont suivi.
Dans mon cas, c'est à la base une initiative de marque. Donc du coup, vraiment, ça arrive de là. Mais c'est très très intéressant. C'est très intéressant aujourd'hui la bataille des marques sur le running.
Alors qu'est-ce qui est intéressant? Parce que on pourrait penser que c'est aussi inquiétant.
Je pense pas, dans le sens où on est en train de véhiculer quelque chose de très positif. On incite les gens à faire du sport, et le running aujourd'hui c'est un sport qui est cool. C'est un sport qui est in, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 10 ans. Aujourd'hui tout le monde court. Tous les mecs les plus stylés de Paris sont en train de courir. C'est un vrai enjeu de marque et un vrai enjeu d'image pour tout le monde, même dans toutes les grandes entreprises. Maintenant, j'ai participé à la Parisienne à la rentrée.
C'est une course qui a lieu en septembre, généralement, et destinée aux femmes.
Purement féminine, 6 km 7.
Ah, ok.
Et énormément de marques se positionnent aujourd'hui sur le running. Toutes les grandes maisons de couture de Paris ont leurs équipes. avec leur t-shirt qui courent au milieu des rues de Paris.
Patrick Mignon, est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça, la déferlante, l'arrivée comme ça des équipementiers, des grandes marques de running dans la vie des particuliers?
C'est un petit peu, voilà, c'est faire l'histoire de notre société et du sport dans la société, c'est-à-dire s'apercevoir que le sport démarre toujours en fait avec des gens qui font ça parce qu'ils trouvent ça rigolo de courir ou de sauter, bon, ils font ça. Et puis ça attire des spectateurs, et puis ça attire aussi des intérêts politiques ou économiques, et donc ça permet de se professionnaliser, ça fait monter le niveau. Enfin voilà,
ça fait monter le niveau, mais est-ce que ça ne fait pas aussi monter le prix des équipements? Est-ce que ça n'explique pas aussi le coût des baskets, des t-shirts, des shorts, qui sont toujours plus joli, toujours plus performant et toujours plus cher?
Disons que là, on a un autre type de phénomène. C'est-à-dire qu'il y a un argent, disons en gros, qui va être l'argent qui va correspondre au fait que les gens vont pouvoir se spécialiser dans une activité sportive. Et il y a un autre aspect, c'est que les sports, selon leur nature, vont avoir aussi un intérêt parce qu'ils vont attirer une population qui ne sera pas nécessairement la population des sportifs de haut niveau, mais qui sera la sportive du pratiquant ordinaire. Alors là, on peut dire qu'effectivement, ce qu'est la course à pied aujourd'hui, c'est une activité qui permet de vendre beaucoup de produits à des personnes qui feront jamais un marathon, qui feront même peut-être jamais un 10 km, ou en tout
et
cas...
Et qui s'en sentiront exemptés.
Qui effectivement vont acheter des chaussures, vont louer des chaussures, et puis peut-être parce que par effet de mode, on va regarder comment on est habillé, etc. On va pas vouloir être ringard parce que, voilà, comme quand on s'habille pour aller travailler ou pour aller partir en vacances, être sur la plage. Et là, de ce point de vue-là, bah oui, on va entretenir tout un marché du produit sportif, mais qui correspond à notre logique. Il n'a pas une logique d'efficacité, celui-là, si on veut une logique de démonstration, de visibilité.
Merci beaucoup. Ainsi s'achève cette émission. C'est vous qui aurez eu le mot de la fin, Patrick Mignon. Je remercie également Camille Pictirion. Je renvoie à son blog Mange tes légumes, qui est extraordinairement bien fait et très informatif. Et puis Mathieu Lemot, procurez-vous le Dico du Running chez Flammarion. Merci à tous. Merci également à l'équipe 7 milliards, Cécile Lavolo, Romain Dubrac, Jonas Malet-Solartz et Ute Eckerfeld. Demain, les voisins, sujet éducation qui concerne les petits comme les grands, l'orthographe. À demain.